maladies infectieuses. Donc tout d'abord, je remercie Serge, Sylvie et Chantal pour l'invitation. Donc moi, vous allez voir, hein, je vais vous parler très très local. Moi. On a beaucoup parlé de systèmes globaux et de solutions globales. Moi, je vais vous parler de problèmes locaux et de solutions très locales. Donc je vais vous parler d'un projet de recherche qui a été mené donc, dans le cadre du programme GICC donc, du ministère de l'écologie français, hein, GICC pour gestion et impact du changement climatique, et donc qui a été mené par une équipe pluridisciplinaire, donc vous allez voir, donc, au Burkina Faso, avec donc, des partenaires allemands, français et burkinabés. Donc voilà, donc je vais vous parler en fait des impacts de facteurs climatiques sur la production de vecteurs du paludisme en zone rurale au Sahel et les stratégies d'adaptation donc dans une région de Nouna au Burkina Faso. Alors juste, bon, je vais passer très vite puisque ça on en a beaucoup parlé sur le paludisme, donc première maladie parasitaire dans le monde transmise par la piqûre donc du moustique Anopheles qui concerne aujourd'hui 50% de la population et qui est donc un problème de santé publique majeur pour deux raisons. Premièrement parce que c'est une cause de pauvreté, quand vous êtes malade ben, vous ne travaillez pas. Et deuxièmement, c'est donc du coup un frein important au développement économique des pays en voie de développement. Et vous avez à gauche une carte de l'OMS qui vous montre donc les principales zones où se trouve le paludisme. Et donc au Burkina Faso, c'est une maladie de santé publique, bien évidemment. Et aujourd'hui, on considère que la population à risque est 15 millions. Alors pour ceux qui ne savent pas, 15 millions, c'est toute la population en gros, du Burkina Faso. Donc en gros, on estime qu'il n'y a pas de zone où le paludisme, où il n'y a pas de zone où on est exempt du risque, en fait. C'est une maladie endémique, mais qui dépend de la distribution des pluies au Burkina Faso. Et en fait, on a fait trois constats en mettant en place ce consortium. On a fait trois constats en travaillant donc avec des acteurs dont je vais vous parler. C'est que ces acteurs de santé publique, qui ont des actions concrètes et locales et de façon opérationnelle, ils ont besoin d'adapter leur politique de gestion de la santé humaine face à ce fléau qu'est le paludisme qui arrive régulièrement. On a constaté aussi qu'il y avait, on l'a dit plusieurs fois, d'importants facteurs climatiques météorologiques et environnementaux qui, dans le déclenchement de certaines de ces épidémies, en amplifiant donc la dynamique de transmission et la diffusion et la propagation des vecteurs porteurs des agents pathogènes, et que dans des régions où il doit y avoir des actions locales, la difficulté, c'est de mettre en place des mesures de contrôle qu'on appelle focalisées, c'est-à-dire très ciblées, à cause justement de la méconnaissance du risque à ces échelles locales. Donc ce que nos partenaires nous ont dit, ils nous ont demandé si on pouvait essayer de faire de la prévision à des échelles très locales. Donc les objectifs de PaluClim étaient de trois niveaux. Premièrement, est-ce qu'on était capable de produire des cartes dynamiques au sens spatio-temporel, du risque vectoriel, alors je dis bien vectoriel, on n'est pas au niveau de la maladie, là on est au niveau du vecteur, hein, du moustique, de la présence ou pas du moustique, à des échelles donc, très locales, c'est-à-dire à l'échelle du village, en s'appuyant donc, sur l'approche conceptuelle de télépidémiologie qui a été développée par le CNES et ses partenaires, donc, sur lequel je vais revenir, pour avoir ces fameuses cartes de prédiction de gîtes larvaires et de leur productivité. La deuxième chose, c'était d'étudier, ce qui nous intéresse un peu aujourd'hui, l'impact de la variabilité du climat, hein, du saisonnier jusqu'aux basses fréquences, en comprenant aussi les tendances et les changements climatiques sur la prévision de ce risque, d'un risque paludique. Et puis ensuite, d'étudier l'efficacité des stratégies de lutte anti-larvaire en utilisant et en se basant donc, sur les cartes de prédiction réalisées à la première étape, à des échelles donc, très locales. Alors, la télépidémiologie, en quoi ça consiste? La télépidémiologie, ça consiste à analyser ce qu'on appelle des relations climat ou météo, environnement et santé, pour mettre en évidence donc, des liens qui existent entre l'émergence et la propagation de certaines maladies infectieuses liées à l'eau, à l'air ou aux vecteurs. Et évidemment, avec les changements, face aux changements climatiques, environnementaux, et donc pour nous, en s'appuyant donc, sur la technologie spatiale, parce que comme vous certains peut-être l'ont bien compris, donc je travaille au Centre national d'études spatiales et donc la problématique des images satellites est au cœur de mon sujet. Elles ne font pas tout, mais elles peuvent contribuer à un certain nombre de choses, ces images. On va le voir. L'objectif final, c'est de fournir à des acteurs de santé publique, donc des acteurs locaux essentiellement, des outils, des services adaptés à leur demande pour leur permettre de surveiller, de prévoir, alors là en l'occurrence pas les épidémies on va dire, mais plutôt la présence et l'apparition de ces vecteurs pour les aider donc ensuite à bâtir et à adapter leur stratégie. Alors ce qui est très important pour nous, c'est que du coup pour faire ça, l'acteur local, on l'emporte avec nous. On l'embarque avec nous dès le départ, même avant de monter le projet, pour comprendre, un, ses besoins, deux, qu'il nous aide à construire les produits dont il a réellement besoin, et troisièmement, parce qu'il a une bonne connaissance du terrain, il a les données, et que donc il va aussi nous aider à comprendre tous les mécanismes qui sont en jeu. C'est-à-dire les mécanismes à la fois de l'apparition de la maladie, mais aussi du comportement des gens, et pourquoi ils réagissent comme ça, et pourquoi ils ne réagissent pas comme ça. Et surtout, c'est pour nous le lien social qu'on fait entre... nous, on n'arrive pas, entre guillemets, nous, pays développés, en arrivant, en apportant notre techno et en disant, regardez, super, on a tout ce qu'il vous faut, nous, on a déjà tout compris, et vous n'avez qu'à faire, et ça va marcher. Ça ne marche pas. Donc pour nous, cet acteur local, il est justement l'acteur intermédiaire auprès de la population pour qu'il y ait une appropriation, finalement, de ces nouvelles technologies. Donc le CNES, donc ça je l'ai un petit peu dit déjà, a développé donc une approche conceptuelle sur ces relations et sur la capacité donc de produire ce qu'on appelle des produits spatiaux issus des images satellites réellement adaptés à ces besoins, à vos besoins de ces acteurs. Alors, c'est basé, donc on l'a dit, donc nous c'est incontournable, hein, c'est une approche qui est multidisciplinaire, qui est basée donc sur l'étude des mécanismes qui va favoriser l'apparition et la propagation des maladies infectieuses. Donc ça veut dire que l'on travaille avec des gens du climat, de l'environnement, des sciences sociales, de la biologie, la microbiologie, l'entomologie, les vétérinaires, les épidémiologistes. Et moi, je suis rien de tout ça. Donc c'est pratique, donc je vais vous présenter quelque chose. Moi, je suis une télédétectrice, donc à la base, moi, j'analyse des images satellitaires. Donc voilà, donc je vais quand même essayer de vous parler de tout ça. Alors, le concept, il est basé sur trois étapes. Une première étape qui est comprendre ces fameux mécanismes qui entrent en jeu pour faire apparaître cette maladie. La première condition sine qua non, on l'a bien montré l'autre fois, c'est les vecteurs. Comment on fait pour passer après du vecteur à l'expression de la maladie? On a vu, c'est pas forcément toujours simple. Mais en tout cas, ce qui est sûr, et ce que nous disent les médecins et les épidémiologistes avec lesquels on travaille, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que si on n'a pas de vecteur, on n'aura pas de maladie. Donc nous, on s'est concentré effectivement sur les vecteurs. Donc ça passe par un long apprentissage pour que les disciplines parlent entre elles. Beaucoup, beaucoup de campagnes de terrain, à la fois pour récupérer des données entomologiques, des données épidémiologiques, des données évidemment sur l'environnement et la météo. Et tous ces gens doivent travailler ensemble pour essayer de comprendre pourquoi les vecteurs sont là et pas ailleurs, et donc identifier ce qu'on appelle un certain nombre de facteurs, paramètres physiques, biologiques et socio-économiques qui sont associés à la présence des vecteurs et éventuellement de la maladie. Une fois qu'on a ça, on va essayer de développer des produits issus de l'imagerie satellitaire. Les imageries satellitaires, elles apportent des informations sur l'environnement, en lien avec ces fameux paramètres clés qui peuvent être déclencheurs de la maladie. Donc, en aucun cas, on ne fait le lien direct entre des facteurs issus de l'imagerie satellitaire et la maladie. Jamais. Nous, on essaye, donc c'est un élément clé parmi d'autres qui permettent de comprendre un certain nombre de facteurs environnementaux, notamment sur l'habitat. Et puis, une fois qu'on a ces éléments, on va dire, ces produits spatiaux, on va essayer donc de construire des modèles donc prédictifs, donc qui sont prédictifs et qui sont dynamiques spatialement et temporellement, avec évidemment un jour à terme, on l'espère, si l'on peut, en plus d'être prédictif, qui soit prévisionnel. On n'y est pas encore. Alors les partenaires, donc je les ai dit un petit peu rapidement, donc le CNES qui a coordonné ce projet et qui a apporté son expertise en télé-épidémiologie, Météo France pour toute la partie études climatiques et changements climatiques, l'université d'Edelberg, hein, qui est une université de médecine, au travers donc de son institut de santé publique, notre partenaire local africain qui est donc le centre de recherche en santé de Nouna, qui donc est un centre opérationnel, qui est là un centre de soins, hein, qui est fait pour soigner, mais qui a consacré une partie de ses ressources donc, à cette étude de recherche. On a eu un appui scientifique donc, de l'Institut de Pasteur de Madagascar, donc, avec le professeur Christophe Rogier, qui est donc un éminent spécialiste du paludisme. Et puis, donc, en fait, je vous parlerai un petit site qu'on a mis en place pour publier et vulgariser nos recherches. Alors en plus de ça, donc moi j'ai souhaité, en tant que coordinatrice, qu'il y ait un comité scientifique donc dans lequel il y ait des membres du projet, mais qu'il y ait aussi des personnes qui ne soient pas dans le projet pour nous aider à guider. Donc Christophe Rogier pour l'aspect connaissance du paludisme, Yves Tour, que certains d'entre vous connaissent bien pour ses travaux sur le climat, le changement climatique, notamment la variabilité naturelle du climat. Norbert Becker, qui lui travaille à l'Université d'Heidelberg, est un spécialiste, on le verra, de tout ce qui est les luttes larvicides biologiques. Et Vanessa Machaud, qui travaille au laboratoire d'aérologie et qui est une aussi des pionnières donc, du concept de télépidémiologie qu'elle a appliqué donc, sur le paludisme à Dakar. Alors, vite fait, la zone d'étude, donc, ça se situe donc, au Burkina Faso, dans le district sanitaire de Nouna, hein, donc au nord-ouest de Nouna, dans la région de Kossi. On est dans un climat sahélien, donc avec une pluviométrie annuelle qui est de l'ordre de 800 mm par an et qui tombe en gros en 4-5 mois entre juin et septembre. Donc, je vais vous présenter le travail en fait, avec les différentes tâches. Alors, une première tâche, c'est ce que je vous ai dit, très importante pour nous, c'est la campagne de mesure. Ça paraît anodin hein, comme ça, mais c'est très très long. Mettre en place des campagnes de mesure entomologiques, c'est très long, c'est très compliqué. Et donc, nous, il nous en faut beaucoup pour arriver à construire nos modèles. Donc, la première étape, ça a été donc, de mettre en place donc, des protocoles pour obtenir toutes ces mesures, donc entomologiques, météorologiques, sur l'occupation du sol. Premièrement, pour mieux comprendre les mécanismes. Deuxièmement, pour mesurer cette fameuse densité larvaire que l'on souhaite modéliser. Et ensuite, pour mesurer l'abondance d'anophèles adultes qui va nous servir ensuite à mesurer l'impact de la lutte larvicide que je vais vous présenter à la fin. Donc, ces mesures entomologiques elles se sont déroulées donc, entre 2011 et 2012 sur 10 villages. Donc, vous voyez, hein, donc, 3 zones par village ont été enquêtées. Et donc, sur chaque zone, on a fait des relevés entomologiques tous les 10 jours, entre mi-juin et fin novembre. Voilà. Alors, les zones, elles ont été choisies en fonction de leur diversité en termes d'occupation du sol. L'objectif, évidemment, c'était donc, d'identifier l'occupation du sol autour des villages, puisque nous, on veut construire des cartes de risque autour des villages, d'identifier les collections d'eau, qui peuvent potentiellement devenir des gîtes larvaires, faire des collectes de larves et des collectes d'adultes. Alors, en quoi nous a servi toutes ces mesures de terrain elles nous ont servi à produire ces fameuses cartes de risque vectorielles, premièrement en faisant de l'analyse d'images satellitaires, sur lesquelles je vais revenir. Ensuite, en faisant une modélisation de ce risque par association statistique entre les variables entomologiques mesurées sur le terrain et des variables environnementales et météorologiques. Donc les variables environnementales, j'y reviens, elles ont été calculées, extraites donc, des images satellites à Spot 5. Donc Spot 5 à 2,50 m. Donc vous voyez, on est très très loin de des considérations dont on a entendu parler jusqu'à présent, qui étaient à plusieurs kilomètres. Donc nous, on est à 2,5 m. Pour extraire donc, différents indices, des indices sur la végétation, des indices d'humidité des sols, etc. Et puis une carte d'occupation du sol. Les variables météorologiques, elles ont été issues donc, de données de RFE et on verra ensuite d'autres données aussi fournies donc, par Météo France. Alors, toutes ces données, ben, on les a mises dans un système d'information géographique. Hein, donc, ici, ben, voilà, vous avez un résumé de toutes les données qu'on avait, donc des indices de végétation et d'humidité issus donc, de l'analyse d'images satellitaires, un couvert d'occupation du sol issu d'une analyse, d'une classification supervisée d'images satellites. En saison humide. On a utilisé aussi le SRTM pour avoir une information sur l'altitude, les températures qui viennent donc des RA intérim et la pluviométrie de RFE. Donc ici, vous avez un village qui est représenté. Vous avez en jaune les 3 zones qui ont été enquêtées. Et au milieu, vous avez entouré les collections d'eau qui ont été trouvées. Et chaque fois qu'on trouvait une collection d'eau, elles étaient géolocalisées grâce à un GPS. Et donc, vous avez en haut un exemple de collection d'eau que vous pouvez trouver, et puis ici, les gentilles petites larves qui vont devenir les moustiques femelles qui vont nous piquer. Oui, femelles. Je ne ferai pas de commentaires. Alors, la première étape est d'identifier et modéliser les collections d'eau. Alors, donc là, on a, c'est ce que j'expliquais, donc on a recherché une association statistique, on a fait une régression logistique, puisque là, notre objectif, c'était de savoir est-ce qu'on a ou est-ce qu'on n'a pas une collection d'eau. Donc la réponse, en gros, c'était binaire, c'était oui-non. Donc on est arrivé à faire cette modélisation. Donc plusieurs facteurs, indicateurs sont ressortis. Donc là, ce que vous voyez, c'est que dans les indicateurs qui sont ressortis, vous les avez ici, les 3 indicateurs, c'est un indice qu'on appelle le NDPI pour la présence de mar. Hein. Le P, ça veut dire Normalized Difference Pond Index. Un qui est très connu, qui est lié à l'humidité des sols. Et puis là, donc, les cartes de classe d'occupation du sol, l'eau plus la végétation et l'eau libre. Donc, vous voyez, il n'y a aucun facteur, aucun facteur météo. Hein. Donc là, il n'y a que des facteurs environnementaux qui sortent, ce qui nous permet d'avoir en fait une carte qui est là et statique, hein, c'est-à-dire qu'on a une carte qui est annuelle, qui nous dit donc à une échelle donc là de 10 mètres, puisqu'on a tout rééchantillonné à 10 mètres, puisque les acteurs locaux nous ont dit que 10 mètres, c'était suffisant. Et donc, en fait, vous avez en gros une présence et une absence. Le modèle donc prédit où vont être ces collections d'eau. Donc, c'est-à-dire qu'en gros, il pleut, elles seront là. C'est-à-dire, en gros, la physique est telle qu'elle est, ça tombe dans des espèces de petites cuvettes et ça tombe toujours, en gros, au même endroit. Donc là, il n'y a pas de dimension temporelle, il n'y a pas de dynamique là, dans cette première étape. Là, on a juste une répartition spatiale. Grâce aux indicateurs environnementaux issus de l'imagerie satellitaire, on a une indication sur où se trouvent les zones anneaux. Alors ensuite, une fois qu'on a eu ces cartes anneaux, on a cherché donc cette fois-ci à détecter la présence de larves, c'est-à-dire est-ce que ces collections d'eau que l'on a identifiées, est-ce que oui ou non, elles contiennent des larves. Et donc c'est là qu'on a le risque en fait, parce qu'une collection d'eau qui n'a pas de larves, finalement, on s'en fiche un peu. Donc là de nouveau, on a recherché des associations statistiques entre nos valeurs, nos données entomologiques, hein, c'est-à-dire les densités larvaires qu'on avait relevées sur le terrain, et un certain nombre donc de variables. Toujours les mêmes, hein, les variables environnementales issues de l'imagerie satellitaire et les variables météorologiques. Et alors là, en fait, il y a deux variables qui ressortent. Une variable environnementale, toujours donc, qui est liée à la présence ou à l'absence de zones humides, le fameux NDWI, qui combine ce qu'on appelle du SWIR, donc du Short Wave Infrared, et du VER, et puis un facteur météo, qui est donc le cumul des pluies sur le mois qui précède. Et donc à partir de là, on a été capable de construire donc un modèle qui permet donc de prédire la densité larvaire à une résolution spatiale donc de 10 mètres. Donc vous l'avez compris avec le code couleur, plus c'est rouge, plus la densité est forte. Donc ça m'amène maintenant à, une fois qu'on avait ce modèle, pendant qu'on construisait ce modèle, en même temps, en parallèle, on a mené une étude sur le risque de paludisme en fonction de la variabilité spatio-temporelle du climat. Donc cette étude, elle a été menée, donc, comme je vous l'ai dit, avec Météo France qui l'a menée. Trois échelles ont été considérées, l'échelle saisonnière, l'échelle interannuelle et l'échelle changement climatique avec différents donc, scénarios climatiques qui ont été testés. Et donc elle s'est faite de la manière suivante, on a fait une analyse d'impact avec un modèle dont on vous a plus ou moins parlé hier, qui est le modèle de Craig. Donc je vais vous reparler plus longuement maintenant. Alors, le modèle de Craig, ça fait quoi, le modèle de Craig ? Le modèle de Craig, ça calcule des indices de conditions favorables au paludisme. Cette fois-ci, on est au paludisme, hein, on n'est plus au niveau des vecteurs, pour la pluviométrie, la température et l'humidité relative. Donc, comment on a procédé ? On a calculé la climatologie, en fait, entre 1983 et 2011 de la région de Nouna. Donc, vous avez ici la retranscription. Donc, vous voyez... la pluviométrie, rien de surprenant, maximum des pluies, plein cœur de la saison des pluies, la température minimum, la température maximum et l'humidité relative. Et donc face à ça, un certain nombre d'études ont montré qu'il y avait des conditions plus ou moins favorables. Si on a un cumul de pluie dans un mois qui est supérieur à 80 mm, c'est très favorable à l'apparition du paludisme. Si au contraire on a un cumul de mois inférieur à 60 mm, c'est très défavorable. Donc, en jouant sur ces jeux de combinaisons, de conditions favorables ou pas favorables pour la température, pour l'humidité et pour l'humidité, on peut arriver à faire donc, justement de la prévisibilité donc, d'apparition de ce risque palustre. Alors, pour calculer cette climatologie, on a utilisé les données ACR2 et les données ERA et TRM pour la température et l'humidité relative. Alors, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait ? On construit ce qu'on appelle une cartographie. Alors, elle est un peu compliquée, je vais vous la résumer. Une cartographie des conditions climatiques favorables au paludisme. Donc, on l'a fait pour entre 1983 et 2001. Donc, on calcule un indice annuel. Les indices qui sont calculés sont des indices mensuels, à partir donc, de la climatologie précédente. Et on calcule ensuite un indice annuel, en sommant les 12 indices mensuels, en sachant que pour la pluie, il y a une particularité, c'est qu'il faut qu'il y ait une succession sur 3 mois qui se produisent. C'est-à-dire qu'on est non seulement un mois supérieur à 80 mm, mais il faut aussi que les 2 mois qui suivent, la pluie soit supérieure à 60 mm. Donc ça, c'est pas nous qui l'avons montré, hein, c'est des études précédentes en épidémiologie, notamment les études qui avaient été menées dans le projet MARA. Donc voilà, donc en fait, si on regarde ce tableau, en fait, ce qu'il faut que juste que vous regardiez, c'est que chaque fois que vous avez une case qui est colorée, quelle que soit la variable que vous regardez, ça veut dire que la condition elle est favorable. Et quand vous avez un X, ça veut dire que pour les pluies, ça veut dire qu'on a dépassé le fameux seuil de 80 mm. Et quand le X il est rouge, c'est que c'est le premier mois pour lequel on a eu la condition favorable. Donc en gros, vous allez me dire pourquoi, par exemple, si on regarde en 83, ici, pourquoi l'indice final annuel il est à zéro? Il est à zéro parce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu la succession, l'enchaînement des 3 mois où les conditions ont été favorables. Il suffit qu'il y ait ça une seule fois et du coup, l'indice est à zéro. Donc après, vous voyez que selon les années, on a un indice qui peut varier fortement puisqu'il peut aller pour des années pas du tout favorables en 83 jusqu'à des années où l'indice, donc vous voyez en gros, de mai à octobre, où tous les mois sont favorables. Et donc par contre, la conclusion, ce qui est très important juste de retenir, c'est que ici, la température et l'humidité relative entre 83 et 2011 n'ont jamais été des facteurs limitants. C'est-à-dire que dans cette région de Nouna, du Sahel, les températures sont toujours et ont toujours été satisfaisantes pour le développement du paludisme. Alors que la température, la pluviométrie est le facteur limitant. C'est très important parce que pour la suite, nous sommes concentrés donc sur cette pluviométrie. Alors, on en vient maintenant au changement climatique en lui-même. On a d'abord regardé, on a fait un zoom sur cette cartographie, sur la pluviométrie, et on a regardé donc les variations climatiques naturelles des précipitations. Et donc, ce qu'il est apparu, c'est qu'il y avait un lien très fort avec l'AMO. Donc, en gros, l'indice, il ne se comporte pas de la même manière selon qu'on a un indice positif ou un indice négatif de l'AMO. Et donc, bon, je ne suis pas une spécialiste, mais je pense que face aux spécialistes du climat, je ne choquerai personne en disant que quand l'AMO est positive dans cette région-là, c'est plutôt favorable à une augmentation des précipitations, qui donc est favorable au paludisme, alors que quand l'AMO est négative, ça signifie plutôt une réduction, voilà, une baisse des pluviométries, et que donc ça, c'est des conditions moins favorables. Ensuite, on a regardé la fameuse prévisibilité saisonnière du risque palustre. Alors là, on s'est concentré sur plusieurs façons d'envisager cette prévision saisonnière. Soit en se basant uniquement sur la climatologie que je vous ai présentée tout à l'heure, soit en se basant sur la prévision climatologique, mais différenciée selon les phases de l'AMO, soit en utilisant donc le modèle Arpège de Météo France, selon différents scénarios, selon que l'on initiait le modèle, par exemple, en mars, en avril ou mai, ou alors qu'on tenait compte de certains indices comme l'AMO ou le NAO. Donc au total, on a 8 modèles qui ont été testés. Et donc ce qu'il ressort de cette analyse, c'est que finalement, la meilleure façon, la façon la plus performante finalement, de prévoir le dépassement de ce seuil de 80 mm, c'est en utilisant la prévision climatologique différenciée selon les phases de l'AMO. En effet, par exemple, la probabilité de dépasser le seuil de 80 mm, quand l'AMO est positive, cette probabilité elle est de l'ordre de 80%, alors que quand on a une AMO négative, elle tombe à moins de 40%. Alors, enfin, on en vient à la dernière étape donc, de l'étude climat. Ça a été donc de tester les scénarios du climat, les scénarios du futur. Donc là, on a utilisé, Météo France a utilisé donc l'exercice de simulation du climat du futur à l'échelle globale avec l'expérience donc CEMIP5 qui utilise donc différents modèles. Donc on a utilisé donc cette expérience pour à la fois les précipitations et les températures et en testant donc 2 scénarios. Le scénario, on va dire, pessimiste, le 8.5, et puis un scénario plus modéré qui est le 4.5. Alors, qu'est-ce qui ressort de cette analyse? Donc là, ici, vous avez le fameux indice, hein, l'indice palustre, de conditions favorables pour les précipitations et pour les températures. Alors, ce que l'on voit, en fait, ici, ce qui apparaît, c'est que si on regarde les précipitations, on voit que quel que soit le scénario que l'on étudie, l'indice, il n'a pas trop tendance à bouger et à fluctuer. Hein. Là, on est en 2100, on est toujours, en gros, entre 2 et 4. L'indice, il oscille pas beaucoup. Alors que si on regarde l'indice des températures, on voit qu'au cours du temps, si on fait foi des simulations du climat du futur, on voit que cet indice, qui actuellement est autour, dans les années très favorables, peut monter jusqu'à 7 ou 8, va se mettre à décroître pour arriver à des valeurs, d'ailleurs, quel que soit le scénario, hein, à des valeurs qui peuvent être, si on est dans le scénario très pessimiste, descendre à des indices à 2, voire à 4, au lieu des 8 où on est aujourd'hui. Et donc, la conclusion, hein, qui rejoint finalement d'autres études globales, c'est que toute chose étant égale par ailleurs, hein, puisque je reviendrai un petit peu après là-dessus, on a vu que jusqu'à présent, c'était la pluviométrie qui était le facteur limitant. Selon le modèle de Craig et selon les simulations du climat du futur, ce qui change, c'est que maintenant, ça serait la température qui, à terme, deviendrait le facteur limitant. Et le facteur limitant, au sens positif du terme, ça veut dire qu'on irait vers des conditions de température dans cette région bien spécifique, hein, du Sahel, qui ne deviendraient plus du tout favorables au paludisme. Voilà. Alors, je vais faire juste un bémol, c'est que cet indice de Craig, il ne tient compte, il ne reflète pas toute la complexité, on l'a déjà dit, hein, des mécanismes de transmission du paludisme, et il ne se base que sur des paramètres climatiques, hein, la pluie, la température. On sait aujourd'hui que c'est plus complexe, donc on a vu, nous, avec notre modèle, qu'il y avait des facteurs environnementaux qui jouaient, et sûrement des facteurs socio-économiques, qui évidemment ne rentrent pas en compte. Il a le mérite, par sa simplicité, de pouvoir quand même faire ce diagnostic face au changement climatique. Voilà. Ce qu'on ne sait pas encore faire en intégrant tous les paramètres, puisque le paludisme, est, comme d'autres maladies infectieuses, est un des mécanismes très complexes. Alors, vite fait, je vais parler très très vite de la dernière étape, où il n'est plus question du changement climatique, c'est la fameuse gestion intégrée de la lutte antipaludique, c'est-à-dire on contrôle les vecteurs, on va essayer d'éliminer les vecteurs. Donc ça, c'était le rôle du centre de recherche en santé de Nouna avec l'Institut de santé d'Heidelberg. Mais ça, basé sur les cartes de risque qu'on a mis au point précédemment, que je vous ai montré précédemment. Donc l'idée ici, c'était de montrer s'il était possible d'ajouter une approche larvicide. Jusqu'à présent, ils utilisent des insecticides, hein, classiques. Et ils ont une approche assez exhaustive. Donc, quand en gros, les personnes malades viennent au centre, disent bah oui, mais j'ai le paludisme, mais il y a plein de zones anneaux, et il y a des moustiques partout, et il y a des larves partout, ben, ils arrivent avec leur grosse machine, on pulvérise tout, et puis on attend qu'il y en ait moins. Donc là, l'idée, c'était, un, est-ce qu'il est possible, dans cette zone où ils n'ont pas trop l'habitude, c'est de faire une approche larvicide, c'est-à-dire, au lieu d'utiliser un insecticide chimique, on utilise un insecticide à base de bactéries. Donc il existe des bactéries qui ont cette propriété, c'est de manger les larves, enfin elles sont absorbées par les larves et elles font mourir les larves. Et deuxièmement, l'objectif, c'était de voir si on peut faire cette approche très ciblée, c'est-à-dire ben, est-ce qu'on peut du coup prioriser les interventions grâce aux cartes de risque précédemment, donc en disant effectivement aux acteurs locaux, il faut aller à cet endroit à tel moment. Alors, donc il y avait vraiment une étude de faisabilité qui était est-ce que l'appropriation finalement des acteurs locaux sur le terrain face à ce nouvel outil. Donc là je passe très vite, il y a d'abord eu une petite étude pour savoir quelle quantité il fallait mettre dans cette région-là. Bon, donc on arrive à 0,4 kg par hectare du larvicide. Et donc ça, c'est un petit peu les conclusions de la mise en application de cette approche larvicide. On l'a mise donc sur 10 villages. 5 villages ont reçu l'approche larvicide et 5 villages ne l'ont pas reçue. On a fait des captures d'adultes du 20 juillet au 13 décembre 2012 pour voir ensuite s'il y avait un réel impact sur la pression entomologique après avoir fait le traitement ciblé. On a prédit, évidemment, grâce au modèle densité larvaire, on a prédit donc la quantité de larves en 2012. Ensuite, on a fait, bon, je passe sur les détails, et ensuite, grâce à ces cartes que l'on a données concrètement aux équipes sur le terrain, on leur a donné ces cartes et on leur a dit, vous allez appliquer les fameuses doses de BTI. Hein, BTI, c'est le larvicide, c'est Bacillus thuringiensis israelis. Ça y est, je l'ai dit. Et donc, ils ont pris ces cartes, ils sont allés mettre la fameuse dose adéquate sur les fameuses mares où il y avait les larves. Donc ces cartes, elles ont été fournies, expliquées aux hommes de terrain, et ils ont fait cette pulvérisation. Alors le bémol, hein, le bémol, vous l'avez en vert, je l'ai mis en vert, je n'ai pas mis en rouge, j'ai mis en vert, c'est que il y a eu deux bémols, on va dire. C'est que premièrement, le produit est arrivé très tard, qu'on avait commandé, c'est un produit qu'on commande aux États-Unis, il est arrivé très tard à Nouna. Et deuxièmement, donc du coup, ça a écourté énormément la période sur laquelle on a pu faire l'intervention, et on a fait cette intervention en gros fin septembre, début octobre. Donc pour ceux qui connaissent la région, c'est une région où on est en fin de saison sèche et où donc naturellement les moustiques disparaissent. Donc pour prouver qu'on a une action statistiquement efficace, ça n'a pas été facile. On n'a pas montré d'ailleurs, on n'a rien montré puisqu'il n'y avait plus beaucoup de moustiques. Donc, bon. Mais je suis quand même positive, je suis toujours positive. Moi. Donc là, ce qui était quand même positif, c'est que premièrement, on a quand même été capable de produire ces modèles. Ça, c'était déjà pas forcément gagné à une échelle locale. Deuxièmement, cette stratégie larvicide a été mise en place et les personnes sur le terrain, c'est-à-dire les acteurs locaux, ont intégré ce nouvel outil et l'ont trouvé utile. Ils ont dit bien sûr, nonobstant, bien sûr, de maintenant de le valider, etc. Mais en tout cas, c'est quelque chose qu'ils ont dit qu'ils seraient prêts à utiliser de façon opérationnelle. Et donc, bien sûr, du coup, ils ont prévu une nouvelle campagne pour essayer d'un petit peu de valider tout ça. Alors, en guise de conclusion, ce qui est en vert et en rouge, c'est ce que je viens de vous dire, donc je vais pas les redire. Si ce n'est qu'il faut retenir que de l'étude du climat, c'est que l'élévation de la température va devenir le facteur limitant de la présence du paludisme dans cette région sahélienne. Toujours pareil, si on fait foi des estimations du climat du futur, et en condition que toute chose par ailleurs soit égale, c'est-à-dire l'accès aux soins, la façon dont les gens se protègent ou pas du paludisme, la façon dont ils ont accès, le système de santé, etc. Alors en tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est que cette première étude est une étude de faisabilité qui a montré que premièrement, on pouvait faire un traitement antilarvaire ciblé en s'appuyant sur des cartes de prédiction basées sur des données spatiales, mais qu'effectivement aujourd'hui, une opération à plus grande échelle est prévue. Normalement, l'Institut de santé publique d'Edelberg avec les partenaires burkinabés doivent mettre en place une étude, cette fois-ci non plus sur 10 villages, mais sur une centaine de villages, pour donc valider tout ça, et on espère à terme que ça devienne opérationnel. Voilà. Nous, on a passé le relais, on a fait le transfert. On en revient à ce que disait la dame de l'INVS hier. Voilà. Nous, on estime, voilà, on a passé le bébé. On va suivre quand même. Hein. On va suivre. Mais c'est ça notre objectif. Notre objectif, c'est qu'à un moment donné, il y a un transfert de savoir-faire et que voilà, il s'approprie ce genre de nouvelles technologies.
Voilà. Merci beaucoup, Cécile. Tu seras là cet après-midi.
Juste pour info, pour ceux qui veulent un petit peu en savoir plus, parce que là, je sais que j'ai parlé très, très vite et beaucoup, vous pouvez aller voir le site qui s'appelle redgems.eu, qui est un système d'information pluridisciplinaire où, en fait, on retrace tous les projets qui appliquent ce concept. Donc, il y a actuellement un projet qui est mené sur la dengue en Guyane, un autre sur la dengue en Guyane aussi. On vient de finir un projet sur la dengue à la Martinique. Et il a été aussi testé donc, sur le paludisme à Dakar. Voilà, donc tous ces projets sont expliqués, les publications qui ont été faites sont disponibles en ligne sur ce site. Voilà, il y a un chapitre sur le climat, il y a un chapitre sur les maladies, sur l'espace et sur les différents projets, les partenaires et les résultats.
Je proposerai, sauf s'il y a des questions complètement urgentes, parce qu'on va aller sur ce genre de... Oui, donc il y a Serge qui veut dire un tout petit mot. Oui,
et... Non, enfin, c'est relié à ça, quoi. Merci, ouais, vraiment pour... Et c'était plus pour la question, c'est la production des cartes, c'est-à-dire quand même, il y a toute une partie qui est le land use, notamment tout ça, qui est pas automatisé, quoi, qui demande en fait beaucoup de travail humain. Donc comment faire le transfert facilement ?
Alors le land use aujourd'hui, dans cette région-là, on estime qu'il ne change pas très souvent. Donc ce qu'on a dit à nos partenaires, c'est que la carte d'occupation du sol, la refaire tous les 4-5 ans, à notre avis, ça suffit largement. L'université d'Edelberg aujourd'hui a acquis cette compétence. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont un étudiant en thèse qui a été là pendant toute la durée du projet et qui aujourd'hui a acquis cette compétence en téléépidémiologie et aussi en télédétection, c'est-à-dire qu'on l'a formé. Donc aujourd'hui, ils ont les outils, c'est-à-dire les traitements d'image, et donc ils savent faire ces cartes. Et donc l'université d'Edelberg est présente est présent en permanence au Burkina Faso. Il travaille la main dans la main avec les médecins du centre de santé. Donc, ça, c'est le premier point. Et ensuite, donc, l'idée, après, c'est que ce modèle, parce que derrière, il y a un modèle, il est donc journalier, il tourne tous les jours. Et donc, pour nous, la donnée satellitaire, elle n'est pas si présente que ça. Il n'y a pas besoin de beaucoup faire de traitement. Calculer les fameux indices de végétation, etc. Ce sont des images qui sont déjà pré-traitées quand vous les achetez. Calculer ces indices, c'est A moins B sur A plus B. Donc, les logiciels le font tout seuls. Donc c'est très facile d'automatiser, surtout que donc, voilà, on a quand même transféré une certaine compétence. On a fait des formations en télédétection avec eux. Donc ce n'est pas les médecins, ce n'est pas le centre de Noutain qui a cette expérience, mais c'est aujourd'hui l'Institut de médecine d'Edelberg qui est là-bas en présence quasiment en permanence. Dans tous nos projets, c'est l'objectif. C'est de faire des modèles qui soient, entre guillemets, simples mais pas simplistes, pour que les acteurs locaux puissent se les approprier et les faire tourner. Et de temps en temps, en ayant fait des réseaux forts, se dire quand j'ai besoin de la télédétection et que je ne sais pas faire, j'ai mes collaborateurs, j'ai mes collègues que je sais mobiliser pour qu'ils me fassent la carte ad hoc, etc. Parce que beaucoup d'acteurs locaux, que ce soit les médecins qui ont une fonction opérationnelle, le médecin avec qui je travaille, qui est le docteur Alissier, la première chose quand je l'ai rencontré, il m'a dit « moi, mon premier métier, c'est de les soigner ». Voilà, donc moi, ma priorité, quand tout d'un coup j'ai une épidémie de maludisme ou autre chose, mon urgence, c'est de les soigner. Donc il fait de la recherche avec nous, etc. Mais donc voilà, donc ils n'ont pas forcément beaucoup de temps. Donc il faut leur faire des choses relativement simples. D'où l'idée des partenariats multidisciplinaires. C'est-à-dire que c'est pas lui, c'est ce qu'il m'a dit d'emblée. Il dit c'est pas moi qui vais me mettre à faire du traitement d'image. Et donc c'est pareil, on travaille avec le centre de démoustication de la Martinique. Le centre de démoustication de la Martinique, c'est pareil, ils travaillent la main dans la main avec des gens qui savent faire de la télédétection. Mais eux, ils disent, moi, je dois intervenir quand il y a, en ce moment, ils sont plein dedans entre la dengue et le chikungunya. Ils disent, moi, j'ai une urgence. Moi, en ce moment, on déclare des cas de dengue et de chikungunya, et moi, j'envoie toute mon équipe pour démoustiquer les 30 maisons qui sont autour. C'est un travail, justement, d'où le travail de longue haleine, pour que les gens s'approprient ce genre d'outils, c'est qu'il y ait des réseaux forts de gens qui ont chacun leurs compétences, mais qui vont vers le même objectif et vers le même point. Donc à un moment donné, se dire, ben, moi je suis un acteur local, je ne vais pas me mettre à faire de la télédétection, mais je sais où taper pour avoir l'information de télédétection dont j'ai besoin ou la carte de risque dont j'ai besoin.
J'avais juste un commentaire sur la partie climat. Enfin, d'abord, merci Cécile, c'était très complet et très intéressant. Juste donc un petit point sur la partie climat. Pas du tout, non, c'est plus un commentaire en fait. C'est que ça illustre très très bien la problématique du changement climatique. Alors certes, c'est du long terme par rapport aux problèmes des gens et les problèmes de santé. On est quand même plus sur de la dizaine d'années, quelques dizaines d'années, que juste le mois qui vient et les problèmes de santé à résoudre sur le court terme. Mais ça illustre très très bien la problématique qu'on retrouve dans la même question sur l'agriculture. On trouve le même résultat sur l'agriculture. Benjamin Sultan, dans le projet Regina, a trouvé exactement la même chose. Si actuellement la variabilité elle est dominée par la précipitation, dans le futur, c'est la température qui devient le facteur clé. Et donc ça veut dire qu'en fait, dans le futur, on n'est pas sur le même régime qu'actuellement. C'est une rupture importante sur le long terme. Et donc le changement climatique, ce n'est pas juste la variabilité telle qu'on la voit actuellement. Ce n'est pas les mêmes contrôles nécessairement dans le futur. Et donc c'est ça un changement du climat. Ce n'est pas juste on est dans la continuité et on continue sur les modes actuels. On est sur des ruptures assez importantes quand même, sur des changements importants. Donc je voulais insister là-dessus parce que ça, je pense que c'est un bon exemple. Et autant on a des incertitudes sur les précipitations, autant sur la température, elle répond quand même fortement à la concentration en gaz à effet de serre. C'est vraiment une relation beaucoup plus directe et beaucoup plus robuste et certaine. Donc là, après, la grande incertitude, elle est quel scénario ? Qu'est-ce qu'on va faire comme politique énergétique ? Ça n'a plus du tout la même, évidemment, incertitude que c'est une certaine attitude qui est aussi une marge de manœuvre. Après, ça, on n'est plus dans la même gamme d'incertitudes, mais la température, elle répond. Et là, on a beaucoup plus de certitudes sur la réponse en température.
On montre avec l'AMO, là, on voit bien. L'AMO joue, hein.
Oui,
alors, On a testé d'autres signaux, le NAO aussi, mais il y avait des corrélations. Tous les autres signaux apparemment qui ont été testés, ils n'ont pas trouvé de corrélation. Alors moi en plus je ne suis pas climat, je ne suis pas une climat. Me regarde pas. Pas climat moi. Ah ben si on revient comme dans les années 70, oui. Ah oui, tout à fait. C'est aussi si effectivement, c'est pour ça que je dis si les simulations du futur sont.
Non, mais en température,
t'as quand même. Il va jamais poser la question.
Ok. Je pose la dernière question. En fait, je voudrais remercier Cécile pour sa brillante présentation. Et je la remercie aussi pour le fait que sa recherche était transdisciplinaire avec l'Association des chercheurs en sciences sociales. Et ce que je constate dans cette recherche, c'est que le paludisme, les cas de paludisme augmentent avec la pluviométrie. Et je voudrais demander à Cécile de savoir si pendant ses recherches, elle a cherché à comprendre les perceptions que les populations burkinabées ont du paludisme. Parce que, de façon générale, en Afrique et en Côte d'Ivoire, où j'ai fait des enquêtes aussi sur le paludisme, il est démontré que les populations pensent que le paludisme est lié à l'exposition au soleil. Ouais. Donc, je ne sais pas si les populations vous ont fait cas de cette situation et qu'est-ce que vous en avez fait dans les recherches que vous avez faites. Merci beaucoup.
Alors, non, malheureusement, on n'a pas... Alors, je pense que les médecins du Burkina Faso travaillent sur ça. Nous, ce n'est pas du tout intégré dans cette étude-là. Dans toutes les études, c'est ce qu'on voudrait maintenant, justement, intégrer cette dimension sociale, à la fois de perception du risque, hein, ça, on en a parlé ce matin, Serge aussi, hier aussi, effectivement, parce que du coup, la façon dont ils le perçoivent, c'est important pour nous de l'intégrer parce que c'est aussi ça sera une bonne façon pour nous de passer le relais, de passer les messages. Et donc ça, pour le moment, aujourd'hui, malheureusement, c'est pas intégré. Mais moi, j'y crois fortement. Je crois que si l'on veut que ça arrive jusqu'aux citoyens lambda, il faut intégrer ça. Alors en plus, il faut l'intégrer pour cette raison-là, c'est-à-dire que pour que les gens s'approprient ces nouvelles techniques et ces nouveaux outils. Mais je pense qu'il faut aussi les intégrer dans nos modélisations. C'est-à-dire que je pense que dans nos modélisations qui aujourd'hui sont très climato-centrées, soit très climato-environnementaux-centrées, je pense qu'il faut des variables socio-économiques. Alors ça, c'est tout le monde justement des sciences sociales qui peut nous aider pour essayer d'intégrer. C'est un projet qu'on a actuellement sur la dengue à la Martinique, où on a fait le même genre d'études, où on arrive au même... Enfin, il n'y avait pas la dimension climat, mais on arrive au même genre de modèle avec des variables environnementales et des variables de pluie sur le cumul de quelques jours qui permettent de faire des cartes de prédiction, mais il n'y a pas de dimension sociale. Et ce que nous ont dit les gens avec lesquels on travaille, les Martiniquais avec lesquels on travaille, c'est vous oubliez toute la dimension sociale. Et sur ces maladies qui sont quand même fortement liées à un comportement humain, le paludisme, le chikungunya, la dengue, c'est très très important. C'est-à-dire qu'expliquer aux gens, ça a été très long en Martinique, expliquer aux gens que par exemple il ne faut pas laisser les coupelles, les seaux dans les jardins, c'est pas simple. Vous l'expliquez, vous passez, ils vous disent oui, vous les videz avec eux, vous repassez un mois après, vous avez de nouveau des seaux, des coupelles. Eh bien oui, parce que je devais faire ma bouture de fleurs. Eh bien oui, parce que la gouttière, elle tombe et l'eau, elle va chez le voisin. Alors je mets un gros conteneur pour récupérer l'eau qui va dans les gouttières. Et puis ma mère, elle le faisait. Ma grand-mère, elle le faisait. Et puis si un jour, on n'a plus d'eau courante, alors comme ça, j'aurai de l'eau pour arroser mes plantes. Voilà. Et tout ça, il faut en tenir compte. Il faut l'intégrer. Et ils ont plus une perception du risque qui est parfois très différente. Nous, en allant sur le terrain, on s'est un petit peu... promener, notamment avec un sociologue, et on a posé la question quelquefois comme ça, alors il n'y a pas, c'est pas formel. Vous savez que vous êtes en zone où vous pouvez avoir la dengue ? Oui, oui. Ça vous inquiète ? Non, non. Vous l'avez déjà eu ? Oui, oui. Ça a été pénible ? Oui, oui. Et pourquoi vous laissez les coupelles d'eau ? Oh ben, mes boutures, il faut bien que je les fasse.
Bien.